bonsoir et bienvenue dans cette émission Nord Kivu au troisième jour d'occupation de Bunagana par les rebelles du M23. Un calme précaire a régné ce mercredi matin dans la zone. Cependant, des détonations ont été entendues pendant quelques minutes dans la région mardi soir, indiquent plusieurs sources civiles et militaires. Après l'occupation de Bunagana par les M23, les réactions se multiplient. C'est par exemple l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC qui s'est dit hier mardi 14 juin préoccupé par la présence des soldats rwandais en RDC. Pour sa part, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, appelle à une cessation immédiate de toute forme de violence par tout groupe armé et de toute activité militaire présentant une quelconque menace pour l'un ou l'autre de la République du Rwanda et de la RDC. La conférence internationale pour la région de Grand Lac, CIRGL en sigle, appelle tous ceux qui perturbent la paix et la sécurité dans les pays de la région de Grand Lac à entendre l'appel pour la paix. C'était hier mardi à Bujumbura lors de l'ouverture des travaux de la table ronde régionale conjointe sur la paix et la sécurité. Et de son côté, l'Union européenne, par la voix de son ambassadeur en RDC, Jean-Marc Châtaignier, devant des hauts responsables de la police congolaise et un parterre des diplomates européens, a critiqué les agissements des groupes armés nationaux et étrangers. Comment analyser ces différentes réactions de la communauté internationale? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous resterons Jason Stier. Il est directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York. Il est aussi ancien coordonnateur du groupe d'experts de l'ONU en RDC. Bonsoir Jason Stier. Timothée Chaombo Soucha, il est chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Bonsoir Timothée Chaombo Soucha.
Bonsoir, bonsoir cher Guy, bonsoir.
Et Christian Moleka, analyste et le coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Bonsoir Christian Moleka.
Bonsoir, bonsoir Guy Matin.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Nous l'avons dit au sommaire, après l'occupation de Bunagana par les M23, les réactions se multiplient aussi sur le plan international. C'est par exemple l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC qui s'est dit hier mardi 14 juin préoccupée par la présence des soldats rwandais en RDC. Pour sa part, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, appelle à une cessation immédiate de toute forme de violence par tout groupe armé et de toute activité militaire présentant une quelconque menace pour l'un ou l'autre de la République du Rwanda et de la RDC. La Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle, appelle tous ceux qui perturbent la paix et la sécurité dans les pays de la région des Grands Lacs à entendre l'appel pour la paix. Et de son côté, l'Union européenne, par la voix de son ambassadeur en RDC, Jean-Marc Châtaignier, devant les hauts responsables de la police congolaise et un parterre des diplomates européens, a critiqué les agissements des groupes armés nationaux et étrangers. Et ici au pays, une marche de soutien au FARDC face à l'agression du Rwanda à travers le M23 a été organisée par la coordination urbaine de la société civile du Nord Kivu ce mercredi dans la matinée à Goma. Cette marche s'est muée à une marche de colère. Les points avec Gabriel Ouaménia.
C'est dans une ambiance survoltée que la marche de soutien aux FARDC est partie du croisement communément appelé entrée président jusqu'au centre-ville en passant par les gouvernorats des provinces. C'est une foule compacte et homogène de manifestants constitués essentiellement de jeunes qui manifestent arborant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Courage et bravoure à nos vaillants FARDC ». FARDC, les M23, c'est le Rwanda de Kagame. Fin de citation. Dans la foulée, on pouvait apercevoir d'autres manifestants transportant des cartons symboles de cercueil où l'on a affiché l'effigie du président rwandais Paul Kagame. C'est au niveau du rond-point BDGL que la marche de soutien aux FARDC s'est rapidement muée en marche de colère. Cet habitant ne cache pas sa colère.
fais la paix. Tous les militaires sont en train de mourir là-bas. Pourquoi hein? Un veto, c'est qui d'abord?
Les manifestants exaspérés de colère se sont massés jusqu'à la grande barrière où ils ont été stoppés par un dispositif important de la police qui a fait usage de gaz lacrymogène. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Merci Gabriel pour ces reportages. Jason Stearns, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà, je rappelle que vous êtes directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York. Vous êtes aussi ancien coordonnateur du groupe d'experts de l'ONU en RDC. Après différentes manifestations organisées à travers les territoires nationaux, la communauté internationale n'a pas tardé à réagir, condamnant à son tour cette énième guerre imposée à la RDC. Et comment vous analysez ces différentes réactions de la part de la communauté internationale?
Bon, je pense que ce qui était prévisible, c'est que tout le monde appelle au calme, tout le monde dénonce la violence, tout le monde aimerait que les différends ou les problèmes soient résolus d'une façon pacifique par le processus de Nairobi, etc. Je pense que la différence, la grande différence, c'est par rapport à l'implication du Rwanda. C'est les États-Unis surtout qui, au moins implicitement, ça dépend, c'est la sous-commission des affaires étrangères du Sénat qui était plus explicite. L'ambassade à Kinshasa a dénoncé les rapports de l'implication du Rwanda, mais quand même, il dénonce le Rwanda, l'implication du Rwanda. Ce qui était différent, vous voyez Moussa Faki, par exemple, qui essaye de faire une équivalence entre les attaques contre le Rwanda, donc il y a eu quelques bombardements des FARDC dans les villages limitrophes du Rwanda, et les soi-disant attaques de l'armée rwandaise contre le Congo, donc, et même là, il ne parle pas explicitement de cela. Donc c'est les États-Unis vraiment presque les seuls, sur le plan diplomatique, au moins d'une façon ouverte, qui parle officiellement d'une implication rwandaise.
Justement, au sujet de cette prudence de la part de la communauté internationale, hein, on condamne la guerre par procuration, on appelle tous ceux qui participent à la paix et la sécurité dans les pays de la région de Grand Lac à entendre l'appel pour la paix, on critique les agissements des groupes armés nationaux et étrangers. C'est à peine que l'on cite le Rwanda, vous avez rappelé que c'est plutôt les États-Unis qui ont parlé de façon formelle du Rwanda. Et cette prudence serait-elle due à quoi? C'est par le souci de ne pas être considéré comme étant prenant parti, n'est-ce pas, pour un cas contre un autre, ou c'est plutôt par principe?
Je pense qu'il y a deux raisons principales. La première raison, c'est que les gens, les diplomates, ils veulent parler avec certitude et cette certitude est difficile d'avoir dans une situation de guerre. C'est-à-dire qu'il y a certains pays qui ont des informations, je pense comme les États-Unis, qui pensent en plus certaines. Et les autres pays, soit ils n'ont pas cette même certitude ou ils veulent avoir plus de certitude pour pouvoir en parler en public. Ça, c'est la première chose. Mais voilà, vous n'allez jamais avoir une photo de Paul Kagame en donnant une caisse de munitions aux M23. Donc voilà, il faut toujours parler sans avoir 100% de certitude par rapport à ce qui se passe. Ça, c'est la première chose, donc le degré de certitude par rapport à ce qui se passe. La deuxième chose, c'est, même si on sait que le Rwanda est impliqué, il y a certains pays qui pensent que déjà on est dans une escalade de tensions entre les deux pays. Comment arriver à diminuer ces tensions? Comment arriver à résoudre ce problème? Il y a certains pays qui pensent que faire des dénonciations publiques, ça pourrait même aggraver les manifestations, ça pourrait aggraver les tensions et ça ne conduit pas à une résolution pacifique de la situation. Mais là aussi, il y a une divergence d'opinion. Comme vous voyez, les États-Unis, eux, ils pensent que faire une pression et dénoncer, ça va aider à résoudre la situation. Il faut aussi, il y a certains pays qui se sentent particulièrement dans l'embarras. Il y a par exemple le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, qui est en train d'organiser, au moins c'est le sommet du Commonwealth, c'est les anciens pays de l'Empire de la Grande-Bretagne, qui vont se rencontrer dans quelques jours à Kigali, et donc ça serait particulièrement embarrassant pour le Royaume-Uni, qui d'ailleurs est en train aussi de nouer une alliance particulière par rapport aux migrants qui cherchent l'asile en Grande-Bretagne, que d'abord ces gens seraient extradés vers le Rwanda. Et donc il y a une alliance diplomatique particulière entre ces deux pays maintenant, qui aussi pourrait faire en sorte que la Grande-Bretagne ne s'exprime pas.
Oui, il y a aussi le mécanisme conjoint de vérification qui devait mener des enquêtes pour vérifier les allégations de la RDC accusant le Rwanda de soutenir les M23. Cette prudence ne serait-elle pas aussi liée au fait que les conclusions de ces mécanismes ne sont pas encore disponibles?
Oui, c'est peut-être le cas. Ce mécanisme est souvent dysfonctionnel dans le sens qu'ils vont sur le terrain, c'est composé par les pays membres. Donc voilà, vous n'allez y inclure l'Ouganda et le Rwanda. Donc est-ce que l'Ouganda et le Rwanda ils vont dénoncer leur propre implication en RDC? J'en doute. Peut-être qu'il y a des autres pays qui le feront. Donc il est difficile pour un mécanisme qui est composé par les pays même impliqués dans le conflit, souvent de s'exprimer d'une façon assez forte. Et donc là, souvent, ils s'expriment d'une façon assez diplomatique. Donc je ne sais pas si on peut miser sur eux. Il y a aussi le rapport du groupe d'experts des Nations Unies qui devrait être publié cette semaine. Mais là aussi, malheureusement, c'est un rapport qui est basé sur des données qui ont été racontées sur le terrain il y a plusieurs mois. Donc je ne sais pas là non plus si on pourrait miser sur ce mécanisme non plus pour avoir plus d'informations.
Jason, et comment réagissez-vous à cette opinion selon laquelle la communauté internationale ne doit pas se limiter à des condamnations verbales?
D'abord, je pense qu'il faut avoir les condamnations verbales, parce que là, il y en a très peu pour l'instant. Je pense qu'on est en train de commettre le même erreur qu'on a commis dans le passé, surtout avec le CNDP en 2008, où on cherche à avoir une certitude absolue, on est trop diplomatique, on veut pas fâcher les uns et les autres pour promouvoir une solution diplomatique, et on ne dit pas les choses assez clairement. Donc je pense que l'attitude des États-Unis est plus correcte. Les informations, je pense, sont là. Même si la certitude n'est pas absolue, je pense qu'il y a des indications crédibles par rapport à une implication du Rwanda en soutien de l'M23. Je pense qu'il faut le dire. Ça, c'est la première chose. Et je pense qu'après de l'avoir dit, on peut même aller plus loin pour imposer des sanctions si nécessaire. Mais je pense qu'on n'est pas encore là. Il faut d'abord dire les choses telles comme elles sont.
Merci, Jason Stiers. On vous garde encore dans cette émission. Timothée Tchaoumbosucha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. La communauté internationale réagit à l'agression de la RDC. Et comment vous analysez ces différentes réactions de la communauté internationale?
Merci. Salut, Jason, l'autre co-débatteur. J'estime que ces réactions sont à classer à trois niveaux. D'abord, les États-Unis ont été plus ostensibles pour la première fois en ce qui concerne la situation de crise entre Kinshasa et Kigali. Mais la communauté internationale, elle, reste dans les réserves parce qu'elle prend en compte les accusations du Rwanda contre la RDC. Et c'est pour ça que, toute proportion gardée, la communauté internationale voudrait privilégier surtout le processus qui est en cours, tant au niveau des institutions régionales qu'au niveau des Nations Unies, parce qu'il faut rappeler ici que le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a amorcé au niveau du Conseil de sécurité un certain nombre de démarches. Troisième niveau, c'est les institutions régionales africaines, qui, elles, appellent au cessez-le-feu. Et donc, quand vous appelez au cessez-le-feu, ça veut dire que la situation doit rester statu quo, le M23 garde des territoires, puis la RDC qui en perd le contrôle des territoires alors qu'ils sont dans les prérogatives d'un État de contrôler totalement ce territoire. Il faut dire que nous sommes, comme Jason l'a dit, dans les réserves diplomatiques, mais moi j'impute cette réaction timide de l'ensemble de la communauté internationale à l'altitude des manques de fermeté des dirigeants congolais. Si les dirigeants congolais avaient une fermeté par rapport au Rwanda et une lucidité dans la coopération avec le Rwanda et même d'autres pays voisins, la communauté internationale aurait adopté une attitude beaucoup plus ferme, parce que vous n'avez pas une condamnation ostensible contre le Rwanda. Je ne vais pas vite comparer la situation du Rwanda à l'agression de la Russie contre l'Ukraine, parce que là, c'est l'armée russe qui est en Ukraine. Mais ici, le président Kagame et le régime de Kigali sous-traitent par des groupes armés la guerre dans le Kivu. Et les accusations, et là je stigmatise aussi en même temps le manque d'une communication efficace des institutions de la République. Parce que rappelez-vous que nous avons eu plusieurs mécanismes conjoints avec le Rwanda pour vérifier la capacité ou même réduire la capacité d'action des FDLR. Et chaque fois, les Nations Unies sont témoins, on a appréhendé un certain nombre des éléments du FDLR et même le processus de leur retour volontaire à Kigali, on retrouve les mêmes éléments dans les groupes armés. Donc les accusations du Rwanda ne sont pas fondées, ce sont des fausses accusations que la communication des institutions du Kinshasa aurait saisies pour réfuter ces accusations. Donc là, l'attitude de la communauté internationale, les réactions de des institutions régionales et de la communauté internationale est justifiée par le manque d'efficacité dans les actions de fermeté que devait mener la République démocratique du Congo. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, l'on impose des sanctions, parce que la RDC peut imposer des sanctions contre le Rwanda, notamment la rupture des contrats économico-financiers que la RDC a avec le Rwanda. En même temps, la RDC peut décider de fermer définitivement ses frontières avec le Rwanda. Ça ne demande pas l'aval des institutions régionales, moins encore de la communauté internationale, parce qu'il s'agit de la souveraineté de la RDC qui est violée. Vous avez toutes les preuves, vous avez le gouverneur militaire à présenter des éléments armés du Rwanda, l'arsenal militaire du Rwanda. On a vu avec les images la présence de militaires rwandais à Bunagana. Ces éléments suffisent, et d'ailleurs le mécanisme conjoint avait déjà eu les rapports à travers leur mission à Goma. Cette réaction, il faut l'attribuer, la réaction, je veux dire, timide de l'ensemble de la communauté internationale, est justifiée par, d'une part, le comportement de manque d'efficacité, de fermeté des autorités congolaises, mais aussi ce qu'on appelle le crédit génocide. Il faut vous rappeler que depuis 1994, du déclenchement des génocides du Rwanda, l'ensemble de la communauté internationale accorde du crédit au Rwanda et ferme les yeux sur tous les abus commis par ce régime.
Timothée,
sur la RDC. Oui.
Vous revenez sur ces manques de fermeté de la part des dirigeants congolais. Et si cela est avéré, vous pensez que ça peut être lié à quoi? Ça peut s'expliquer par quoi, ces manques de fermeté de la part des dirigeants congolais?
Bon, c'est dû d'abord par le fait que le président Tshisekedi a, pour lui, opté pour une diplomatie de développement, de coopération. Il est allé plusieurs fois à Kigali, comme en Ouganda. C'était une bonne chose. Mais lorsque, de l'autre côté, vous n'avez pas cette réponse-là, il faut une réponse de fermeté. Et donc, jusqu'ici, il faut interroger les dirigeants congolais de savoir pourquoi ils n'ont pas cette fermeté vers le Rwanda. Est-ce que cela est dû aux accords qui ne sont pas connus des Congolais? Est-ce que cela est dû au fait que la RDC se trouve avec plusieurs éléments du Rwanda qui sont dans les rangs de nos institutions et qui, quelque part, détiennent les clés de certains services spéciaux de l'État? Est-ce que c'est un questionnement auquel nous pouvons tous nous lancer? Alors qu'en réalité, nous sommes en face d'une situation qui est claire. Vous avez le M23 qui a été totalement défait. Vous avez l'équipement nouveau, les Nations Unies ont perdu quelques hélicoptères, des hommes, n'oubliez pas que les Tanzaniens sont morts ici. Vous savez, en matière de guerre, vous ne pouvez pas mener une guerre lorsque vous n'avez pas une base arrière. La base arrière de tous ces groupes d'armées, notamment le M23, c'est le Rwanda et l'Ouganda.
Timothée, on se rappelle aussi qu'en 2013, la défaite du M23 avait été précédée par des condamnations de cette nature de la part notamment de la communauté internationale. À votre avis, à quoi peut-on s'attendre après toutes ces condamnations?
Ces condamnations sont d'ordre politique et diplomatique. Il n'y a pas... Les États-Unis sont préoccupés, les Nations Unies suivent la situation de près, on condamne, mais il n'y a pas d'effet. Ici, on s'attend à ce que le ministère des Affaires étrangères de la RDC puisse amener le dossier au niveau de la justice internationale, non seulement aux Nations Unies, mais au niveau de la justice internationale avec les éléments qu'ils ont. Rappelez-vous, en son temps, Léonard Chéo Kitondo, alors ministre des Affaires étrangères, a mené la même démarche et a fait condamner l'Ouganda. La RDC doit passer des politiques de diplomatie, des politiques d'approche, d'amitié face à cette situation, à des politiques administratives, à une procédure administrative auprès des institutions internationales. C'est de cette façon seulement que le Rwanda et même d'autres pays qui s'hasarderaient à déstabiliser la RDC pourront revenir à la raison et réclamer des sanctions de la part des institutions internationales contre le Rwanda. Il faut que la diplomatie de la RDC puisse marcher. Et cette diplomatie, jusqu'à présent, n'est pas encore passée à l'acte pour faire condamner le Rwanda.
Merci.
Alors qu'ils ont ostensiblement les preuves.
Merci, Timothée Tshiamosutsha. Christian Moleka, analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC, comment analysez-vous ces différentes réactions de la communauté internationale?
Ouais, merci. En tout temps, partageant les points de vue de mes prédécesseurs, certains points de vue tout du moins, j'ajouterais simplement que ces communiqués traduisent la réserve, mais également la réaction minima de beaucoup de pays. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un cap qu'on n'arrive pas à traverser. Il y a une ligne d'interprétation qui a été imposée depuis très longtemps sur la question congolaise, la question politique congolaise, celle de donner la grande responsabilité au Congo depuis l'accord de Lusaka, en ramenant la question à une dimension d'abord interne au Congo, ensuite en mettant en place un mécanisme de coopération régionale. Cette ligne d'interprétation, elle est dépassée, elle n'est pas réaliste, parce qu'il y a un aspect fondamental du conflit qu'on ne veut pas prendre en compte, c'est le fait que le problème de la sous-région s'appelle le Rwanda. Et que tant que le Rwanda continuera à déverser au Congo ses conflits internes, tout en poursuivant les FDR, tant qu'on n'ouvrira pas un espace démocratique à l'intérieur du Rwanda pour que les questions politiques soient réglées à l'intérieur du Rwanda, il y aura de l'instabilité dans la sous-région. Tant qu'il n'y aura pas une volonté réelle de paix, puisque la paix ne paye pas, que les intérêts économiques soutiennent ce qu'on ne soulève pas dans les communiqués, soutiennent les économies de certains pays, et donc l'instabilité au Congo entretient une économie prospère pour beaucoup, eh bien, cette donne ne sera pas réglée. L'interprétation qu'on donne équilibriste sur les mouvements nationaux et étrangers, comme pour dire que les FDLR sont un élément du conflit, sont des approches très dépassées qui ne correspondent pas à la réalité sur le terrain. Tout le monde le sait, les mouvements étrangers sont appuyés par les pays voisins. Il s'agit donc d'agression et on ne peut pas se limiter à caricaturer ces conflits qui durent depuis plus de 25 ans. Il faut que l'on change l'interprétation et c'est la diplomatie qu'on laisse d'imposer cette perception de choses qui doit s'inscrire dans les communiqués. Malheureusement, les différents communiqués n'abordent pas cet aspect fondamental du conflit qui est celui du Rwanda comme source d'instabilité. Et si telles les choses devaient être présentées, on devrait aller vers des sanctions plus fermes vis-à-vis de cet État-là qui est le facteur déstabilisant de la région.
Il a souvent été dit que le Rwanda entreprend, n'est-ce pas, ses actions militaires en RDC avec la complicité d'une certaine communauté internationale. Et Christian Moleka, maintenant que cette communauté internationale semble condamner l'action du Rwanda à travers les M23, cela pourrait-il pousser le Rwanda à reculer?
Bon, c'est déjà une condamnation à minima, puisque on semble les dire les lèvres pincées. Il faut une condamnation plus ferme et des sanctions plus fermes. On l'a vu lorsque, dans les années passées, il y a eu des sanctions contre le Rwanda à l'époque du CNDP. Le mouvement s'est éteint très rapidement parce qu'il y a des sanctions financières, notamment venant des pays alliés au Rwanda. Il faut que l'on quitte ces balbutiements avec cette condamnation avec les lèvres pincées. Il faut que l'on dise ouvertement les choses et que les sanctions accompagnent. C'est à ce moment-là que le Rwanda pourra reculer. Bien évidemment, le Congo ne peut pas uniquement s'appuyer sur le sujet diplomatique des autres. Il faut qu'en interne, nous améliorons la gouvernance. Il faut que les réformes au niveau de l'appareil de sécurité soient faites. Il faut que l'armée monte en puissance pour qu'il soit capable d'assurer le monopole de la violence dans son territoire et pas uniquement s'appuyer sur les efforts diplomatiques des autres.
Au-delà de ces condamnations, il y a la question fondamentale, c'est cette problématique M23. Quelle est la solution adéquate et durable à cette problématique, Christian Moleka?
Le M23 n'est que l'appendice d'une stratégie de guerre extérieure du Rwanda qui consiste à avoir une zone tampon entre le Rwanda et les prétendus FDLR qui instabilisent le Rwanda, alors qu'on sait que le Congo et le Rwanda ont mis en place des opérations conjointes, qu'il s'agisse de Rudia ou des centres d'information pour traquer les FDLR, que les chefs des FDLR ont été sensiblement exécutés, que le noyau qui demeure est non significatif pour la sécurité du Rwanda, mais le prétexte demeure celui de cette zone tampon-là. Et tout le monde le sait, alors que ce prétexte a soit d'autres intérêts d'influence à la fois économique et politique de la sous-région. Je crois qu'il faudrait, à un moment donné, quitter la langue du bois et les politiquement corrects et dire les choses comme il le faut. Le facteur instabilisant de la sous-région, que ce soit au Congo, au Burundi et hier en plein au Luganda, ça s'appelle le Rwanda et le leadership politique au Rwanda, et que ce leadership-là n'est pas un facteur stabilisant pour la paix dans la sous-région. Et qu'à défaut de le voir accepter la dynamique de la paix pour la sous-région, il faudrait des mesures fortes pour contraindre la solidarité-là à un changement de sa propre volonté.
Nous allons maintenant écouter les points de vue des auditeurs qui sont en train d'appeler pour participer à cette émission. Jason Stiers, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kananga dans le Kasaï central.
Maître Alidor Mampouya, avocat au barreau du Kasaï central et résident dans la ville de Kananga. Il est un adage qui dit « au grand mot des grands remèdes ». Les différentes organisations, tant régionales, continentales qu'internationales, devaient prendre des mesures, des sanctions ciblées contre les Rwandais, de la même manière qu'on l'a fait pour la Russie à cause de son invasion en Ukraine. Les simples appels à la paix sont insuffisants et ne seront pas suivis de fait. C'est pourquoi la communauté internationale doit montrer la même solidarité au peuple congolais comme elle l'a fait pour le peuple ukrainien. L'on ne comprend pas, pour le même cas de figure, l'ONU et son Conseil de sécurité peuvent prendre des mesures différentes alors que la guerre de la Russie contre l'Ukraine est semblable à celle du Rwanda contre la RDC. La politique de deux poids deux mesures doit être bannie au niveau de la communauté internationale. Il ne doit pas y avoir des pays qui sont considérés comme des enfants chéris par l'ONU et d'autres sont là pour subir le dictat des autres.
Jason Stiers.
Oui, je pense que d'une côté, je suis d'accord avec l'auditeur dans le sens que je ne pense pas, au fin de compte, que des simples paroles seront suffisantes. On l'a vu, comme Christian l'a dit, on l'a vu avec l'M23 en 2012-2013. C'est suite à des actes, donc c'est suite à des sanctions. Il y avait, la communauté internationale a imposé plus de 400 millions de dollars de sanctions contre le Rwanda suite à son implication en soutien de l'M23 à cette époque-là. C'est là où le Rwanda a plus ou moins cessé de coopérer avec l'M23 et l'M23 s'est dissous dans très peu de temps. Et donc je pense que c'est vrai, on n'est pas en 2012-2013, là c'était la ville de Goma qui avait été menacée et prise par l'M23. La situation actuelle est moins alarmante. La situation aussi n'est pas la même qu'en Ukraine où il y a une armée étrangère russe qui envahit un autre pays, occupe ce pays, démolit ce pays. Donc la situation est différente. Mais bien sûr, je pense que ce qui serait évident pour tous les auditeurs, c'est qu'il y a une différence aussi d'intérêts. Le Congo n'est pas l'Ukraine, point de vue des intérêts, de l'importance de ce pays au niveau international. Je pense que cela aussi peut expliquer comment un tout petit pays, le Rwanda ou les États-Unis, ont très peu d'intérêts économiques, et les autres pays occidentaux aussi, je pense, ont très peu d'intérêts économiques, comment ce pays peut avoir une telle importance au niveau international. Donc, je pense qu'il a raison, l'auditeur. Je suis aussi d'accord avec les diplomates qui pensent qu'il faut y aller doucement, mais plus fermement, au moins au niveau des discours. Et si les discours ne suffisent pas, là, je pense que oui, il faudra aller jusqu'à couper. Et je pense que comme Timothée l'a dit, le Congo aussi peut agir. Il y a une compagnie rwandaise liée à la présidence d'ailleurs qui a signé un contrat pour des grandes concessions minières à l'est du Congo. Cette compagnie s'appelle Diver. Et donc même, et Rwandair bien sûr aussi là, etc. Donc il y a, même au niveau du Congo, il y a des sanctions qu'on peut imposer. Donc je pense qu'il y a une façon de réfléchir un peu plus stratégique par rapport à cette situation-là.
Jason, donc vous partagez le point de vue de Timothée Tshaombo Soutcha qui pense que ce genre de réserve que l'on observe dans les propos de la communauté internationale serait lié au manque de fermeté de la part des dirigeants congolais, au déficit de communication qui est constaté depuis un certain moment.
Je ne sais pas s'il y a un déficit de communication. Il y a certains, notamment le ministre des Affaires étrangères, Lutundula, qui communique assez clairement, je pense, sur le sujet. Il y a certains autres, notamment le président de la République, je pense, qui communique moins clairement sur la situation. Donc, je pense qu'il y a une délégation des tâches qui s'est faite au sein du gouvernement congolais par rapport à la situation.
Est-ce qu'il y a un manque de fermeté de la part des dirigeants congolais?
Voilà, encore une fois, je pense que certains dirigeants congolais ont été assez très clairs et très fermes. Je pense qu'il y a une menace par contre de populisme, et là aussi il y a un dilemme. J'ai parlé du dilemme des diplomates qui ne veulent pas être trop publics dans la condamnation du Rwanda parce qu'ils veulent que le processus politique continue, même si je ne suis pas d'accord avec cela. Mais aussi un autre dilemme de la part des dirigeants congolais dans le sens que, et des activistes congolais, ils veulent soutenir leur propre armée, ils veulent soutenir leur propre État, mais par contre, et il y a une certaine impulsion populiste aussi parfois là-dedans. Et donc c'est pour cela que parfois, même à Goma, qui s'en gagne ailleurs, on voit une certaine haine contre certaines communautés, la communauté Tutsi, s'exprimer par exemple, ce que je ne pense pas, ce qui d'ailleurs va aider le Rwanda dans leur cause. Il y a aussi une manque, je pense, de redevabilité de l'armée congolaise, qui a ses propres défaillances. D'ailleurs, l'accusation que l'armée congolaise à certaines coalitions avec des groupes armés et même l'FDLR sur le terrain. Je ne mets pas ça au même pied d'égalité, bien sûr, avec l'accusation contre le Rwanda, mais là aussi, il y a des accusations. Donc, je pense qu'on peut être, en soutien de l'armée, mais aussi la tenir redevable, ce qui est très, très important aussi pour l'instant.
Timothée Tshaombo Soutcha, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani, dans la province de la Tshopo.
c'est Mali, bienvenue à partir de la ville de Kisangani, de la Tchopo. Ces différents appels ne sont que là pour tromper la vigilance du peuple congolais, car nous connaissons tous que ces organisations sont une main noire qui se cache derrière le dos du Rwanda pour exploiter les sous-sols congolais. Et nous, peuple congolais, nous voulons que ces organisations multinationales, y compris le Rwanda, nous foutent la paix. Et le peuple congolais ne veut autre rien que la paix pour que nous puissions avoir aussi du développement.
Timothée Tchaombo Soucha.
Je partage largement le point de vue de l'auditeur de Kisangani, parce que on sait, j'ai parlé du crédit génocide, mais on sait aussi que personne n'a intérêt dans la région des Grands Lacs que le conflit de la RDC prenne fin. Et tout simplement parce que beaucoup de pays contributeurs, des grands États, les États les plus puissants qui sont contributeurs aux Nations Unies, ont leurs multinationales qui sont installées en Ouganda et au Rwanda. Et comme vous savez, actuellement, on parle des démocraties des multinationales qui dictent leurs agendas au sein des institutions internationales. Donc la guerre du Kivu est une guerre économique aussi. Et que donc, d'abord, ces multinationales sont là. La deuxième raison, c'est que personne n'a intérêt que le conflit prenne fin parce que c'est un milieu juteux de trafic d'armes vers tous ces groupes qui n'ont pas d'ambition nationale de venir renverser les institutions à Kinshasa. C'est des groupes de crèveurs, etc. Et alors, un élément important qu'il faut souligner, c'est que le jour où fermement la RDC prend la décision ferme de traduire le Rwanda en justice et que la communauté internationale s'inscrive dans la logique des sanctions contre le Rwanda, vous verrez que les groupes armés soutenus par le Rwanda prendront fin et les groupes d'autodéfense que l'on accuse abusivement des groupes négatifs prendront fin. Parce que qu'est-ce que c'est que ces groupes armés? Mais ce sont des compatriotes congolais qui se défendent lorsque l'État est faible, inféodé, les institutions de sécurité sont inféodées, etc. Ceux qui voient leurs parents massacrés, qu'est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils ont de direct? C'est le réflexe de survie. Et ils s'organisent en mouvement d'autodéfense. Les jours où les agresseurs partiront, ces groupes cesseront, ce sera la vérité. Donc ici, le facteur, un autre élément important qu'il faut dire, c'est que il faudrait que l'État congolais, la communauté internationale puisse regarder ce qui se passe à Kigali. À Kigali, il y a un régime qui ressemble à la Corée du Nord. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de revendication à Kigali. Et le régime de Kigali est un régime qui n'est pas un facteur de stabilité dans la région. Avec le Burundi, nous avons vu, ils ont fermé les frontières il y a longtemps avec l'Ouganda, etc. Il faut changer le régime à Kigali et installer un régime qui sera favorable pour la paix, parce que nous avons des peuples au Rwanda, les Rwandais ont des peuples chez nous, nous avons 9 frontières à la RDC, et donc nous n'allons pas jeter le Rwanda dans le lac Kivu. Ben, il faut qu'il y ait un changement de régime à Kigali pour que finalement la région des Grands Lacs puisse avoir la paix. Un dernier élément que je veux dire, il faudrait qu'il y ait un vrai dialogue au Rwanda. Il ne faut pas imposer aux Congolais le dialogue, nous n'avons rien à faire, nous avons été juste désabusé par l'ensemble de la communauté internationale, les Nations Unies, qui nous ont imposé d'accueillir sur notre sol les ex-génocidaires, les Interahamwes, bon, qui ont été aussi génocidés au Congo par plusieurs opérations conjointes menées avec la RDC. Les quelques vieux Hutus génocidaires qui seraient au Congo doivent être amenés sous escorte des Nations Unies, de l'ensemble de la communauté internationale au Rwanda, et que le régime à Kigali organise un dialogue franc, réel, entre Merci. Rwandais. Les Congolais ont organisé les leurs plusieurs fois.
Merci.
Et nous sommes, je crois que nous sommes à une étape où on ne peut plus accepter des morts de plus. Tout le monde voit ce qui se passe dans les Kivu, c'est un carnage qui ressemble à celle de la première et la deuxième guerre mondiale.
Merci Timothée. Christian Moleka, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle de Bukavu au sud Kivu.
Isaac Bampori qui de Bukavu au sud Kivu. Ne soyons pas distraits par des propos diplomatiques. Nul n'ignore que parmi ces grandes puissances qui appellent à la cessation des hostilités, il y en a qui ont toujours soutenu le Rwanda contre nous. À nous de nous investir dans le renforcement de notre armée pour barrer la route une fois pour toutes à nos méchants voisins qui nous infiltrent et nous faut accepter n'importe quoi parce que nous négocions avec eux en position de faiblesse.
Christian Moleka.
Bon, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une diffraction. Je crois que c'est un indicateur important pour nous de savoir quel est le... l'interprétation que les autres font de la région. Et c'est un indicateur qui peut nous permettre, notamment au niveau de la diplomatie, pour travailler davantage à changer la perception des acteurs internationaux sur la question congolaise. Certes, il y a un travail de lobbying qui a été fait auparavant et qui ne nous a pas été favorable. C'est l'intérêt du Congo de construire une diplomatie d'influence, non pas uniquement envers les acteurs étatiques, mais également envers les acteurs non étatiques comme les multinationales qui, en apportant des réponses économiques, pour répondre à leurs demandes et inverser la perception afin qu'elle nous soit favorable. Je crois qu'il nous faut non pas nous lamenter, il faut nous appuyer sur les éléments d'observation qui sont comme des tableaux d'indicateurs et réorienter notre diplomatie pour toucher les cibles afin que les prochains communiqués, s'il y en aura, nous soient favorables. En même temps, c'est à nous en tant qu'État de nous assumer. Si nous estimons que comme État, nous sommes à même de tenir nos propres décisions, nous pouvons nous assumer, nous ne sommes pas tenus par par ces communiqués-là. Je crois que c'est un indicateur important qu'il nous faut prendre en compte, mais après, c'est aux Congolais de s'assumer et d'assumer leur destin.
Jason Lester, nous sommes à la fin de l'émission. Au-delà de tout ce qui est dit ici aujourd'hui, il y a cette question M23. Et à votre avis, c'est quoi la solution durable et adéquate à la problématique M23?
Bon, je pense que ici on a parlé de la relation internationale. Je pense que le Congo ne peut pas dépendre de la communauté internationale. La raison pour laquelle le Congo se trouve tous les 3-4 ans de retour à des tables de négociation avec les groupes armés, c'est à cause de son état faible, je pense. Et un état d'ailleurs qui, certains membres de cet état sont complices, même avec la violence, ils y trouvent un intérêt. Et donc je pense que pour sortir définitivement ce cycle de violence et pour rompre aussi sa dépendance avec les différents autres membres de la communauté internationale, je pense qu'il faut renforcer l'État. C'est la seule solution à long terme pour la RDC. D'ailleurs, l'M23 aujourd'hui n'est pas la source principale de l'insécurité à l'Est. Il y a des autres groupes armés qui sont beaucoup plus une menace quand on voit les chiffres, l'ADF, Codeco, etc. Et donc je pense que résoudre tout ce problème, ça ne pourrait jamais se résoudre seulement à travers des négociations, seulement à travers des appels à des partenaires internationaux, c'est à travers de sa propre force que ça peut venir.
Il y a le M23 qui a toujours revendiqué, n'est-ce pas, l'application des accords de Nairobi, notamment pour que l'on puisse réintégrer ces éléments au sein des FRDC. Et du côté du gouvernement congolais, il a été dit niet, on ne peut pas les faire parce que la loi actuelle de l'armée congolaise interdit le fait d'incorporer les rebelles au sein de l'armée nationale. À votre avis, c'est quoi l'alternative? Finalement, il faut faire quoi pour apporter la solution à ces problèmes M23?
Bon, je pense que c'est facile. Soit on utilise la carotte ou le bâton. La carotte, c'est les négociations, c'est les postes, c'est l'argent, etc. Le bâton, c'est la loi, c'est la force. Malheureusement, la force n'est pas encore là. Le Congo, l'État congolais a encore du temps pour se reconstruire, je pense. Dans l'intérim, je pense qu'on peut recourir à des approches, je pense, intermédiaires. Mais je suis d'accord avec le gouvernement qu'il n'est plus temps d'intégrer des anciens rebelles au sein de l'armée congolaise. On a vu le résultat de cela, ça va aggraver encore la faiblesse de l'armée. Donc peut-être les démobiliser, oui. Ceux qui sont trouvés coupables pour des crimes internationaux ou les crimes contre l'humanité, il faut les trouver, il faut les juger. Mais les laisser dans ce vide-là, dans les camps militaires au Rwanda, l'Ouganda, n'est pas non plus une solution. Donc il faut trouver une solution ferme pour ce problème de l'M23, sinon ils vont réapparaître après quelques années comme ils le font maintenant.
Timothée Chaombo Soutcha, vous êtes chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits. À votre avis, a-t-on géré la question M23 de manière à prévenir les conflits auxquels on fait face aujourd'hui?
Oui, on n'a pas encore fait assez et il ne faut pas qu'on revienne sur les vieilles recettes. Jason l'a dit, nous avons fait l'intégration plusieurs fois, la RDC l'a fait plusieurs fois. Et on retrouve les mêmes officiers qui hier étaient au FRDC, ils sont rentrés dans ces groupes armés, etc. C'est un cercle vicieux. Autant il faut utiliser l'option militaire, c'est-à-dire frapper ces groupes armés. N'oublions pas l'option diplomatique qui doit être ferme avec des procédures et traduire le Rwanda en justice. et comme nous avons la fois passée obtenu la condamnation de l'Ouganda, mais aussi continuer à faire ce qu'on appelle des réformes institutionnelles, parce que la menace n'est pas que le M23, la menace est aussi d'autres groupes d'armées qui s'islamisent, des groupes terroristes. Nous assistons à des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux qu'on égorge au nom d'Allah, alors que nous savons que nous ne contrôlons pas nos frontières, parce que il faut dire entre 40 à 60 millions d'Africains sont en train de descendre et fuir le Sahara. Ce sont des immigrés climatiques, je l'ai dit plusieurs fois, et que donc ces gens qui, par un fait de survie, veulent s'installer en Afrique centrale, notamment à RDT, mais voilà, nous ne contrôlons pas nos frontières. Il faut des réformes institutionnelles. Je n'ai pas encore observé la stratégie sécuritaire et militaire du président Tshisekedi, qui a hérité d'un appareil de l'ancien régime, un appareil qui est obsolète. Il faut qu'il y ait des réformes au sein de l'armée, des réformes au sein de l'ANR, de tous les services spéciaux, tant civils que militaires, et faire les recrutements. J'ai vu le président ukrainien qui a rappelé même les meilleurs de ses hommes qui étaient casquettes bleues ici et qui sont rentrés pour la patrie. Le président de la République peut mettre une commission d'identification de nos hommes qui sont dans les différentes académies militaires au monde et leur faire venir pour que ces compatriotes apportent leur contribution. C'est à ce moment-ci que l'on transcende les camps politiques, etc., pour parler patrie. C'est de ça qu'il s'agit. Et en même temps, il faut avoir l'ambition, je l'ai dit tantôt, pour résoudre le problème, définitivement le problème de la déstabilisation de la RDC, il faut in fine qu'il y ait un régime démocratique à Kigali. Tant que nous avons ce régime qui ressemble au régime d'Hitler, ben, nous n'aurons pas la paix en RDC et dans la région.
Merci.
Cela doit être dit clairement, aussi bien par les institutions de la RDC que par l'ensemble de la communauté internationale.
Merci, Christian Moleka. Pendant que l'on parle de l'occupation de Bunagana par la M23, comme l'a relevé Timothée Chaombo Soutcha, il y a des Congolais qui se font égorger toujours dans le Nord Kivu et comme à l'Ituri par d'autres groupes armés. Et lui pense qu'il faut résoudre le problème de la sécurité de manière globale et il propose à cet effet des réformes institutionnelles et ça a toujours été soutenu par beaucoup d'experts. Mais pourquoi, à votre avis, ces réformes tardent à venir? Pourquoi, même lorsque le chef de l'État a accédé au pouvoir, l'actuel chef de l'État a accédé au pouvoir, il a parlé, n'est-ce pas, de ces réformes, mais ça fait 3 ans, ces réformes ne sont toujours pas initiées. Qu'est-ce qui peut être à la base de cette situation, Christian Moleka? Ça sera sous votre conclusion.
Mais il faut déjà que les réformes soient financées. Or, vous le savez, généralement, nous dépendons des partenaires extérieurs pour le financement. Vous vous rappellerez que le financement de la réforme de la police a été interrompu à cause des condamnations des quelques décideurs de chez nous lors des événements politiques en 2016-2017. Et donc, tant qu'on ne réglera pas le problème du financement interne de la réforme, qu'on dépendra du financement extérieur, ce sera un peu difficile. En même temps, il faut que les politiques s'approprient ce besoin de refondation de l'État. Il ne faut pas que ce soit simplement porté par les partenaires techniques extérieurs. Ce besoin de refondation de l'État doit être approprié par les acteurs politiques congolais et mis en priorité tant dans le budget intérieur que dans l'action politique chez nous. Tant qu'on ne mettra pas au cœur de ce problème-là de l'action politique de nos décideurs, on ne répondra pas à cette question de sécurité à l'Est, que ce soit en Ituri ou même dans le haut Tanganyika. Mais moi, j'aimerais bien finir sur la question du M23 en disant qu'on ne peut pas disséquer la problématique du M23 avec la gouvernance au Rwanda. Donc tant qu'on ne lit pas cette question de la gouvernance au Rwanda, c'est-à-dire les problématiques des FDLR et de tous les mouvements rwandais doivent se régler au Rwanda autour d'un dialogue politique et d'une ouverture démocratique, on ne réglera pas la question congolaise. On pourra beau démobiliser, il va naître demain notre M24 qui servira de tampon au Rutshuru pour soi-disant faire la guerre à l'extérieur. Il faut relier la problématique du M23 avec la gouvernance au Rwanda.
Merci à Jason Stirps, à Timothée Chaombo Soutcha et à Christian Moleka d'avoir accepté de participer, n'est-ce pas, à cette émission. Merci aussi à Billy Landry Betou qui était la technique et à Donna Madimba qui a réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sabujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne soirée au programme sur Radio Okapi.